La chose qui me frappe le plus dans ce que nous vivons actuellement, c'est la manière avec laquelle nous nous concentrons sur des événements particuliers, des nouvelles spécifiques ou des chiffres macro bidonnés pour en créer des espèces d'histoires qui justifient des mouvements erratiques sur les bourses mondiales. On a complètement mis de côté le concept d'analyse macro sur le long terme, de stratégie sur 12 mois ou d'investissement à long terme. Et quand je dis long terme, je parle de plus de 24 heures, bien sûr. Rencontrer quelqu'un qui parle d'acheter un marché ou une action pour les 30 prochains jours devient pratiquement impossible. Entendre un stratège qui a une vision sur les 12 prochains mois relève de l'exploit sportif, presque autant que le mec qui traverse la France d'est en ouest en courant. Et quand bien même vous trouveriez un stratège qui oserait prendre des paris pour fin 2026 en argumentant précisément pourquoi et comment le S&P 500 sera à 10 000, son avis et son opinion seront bien sûr relégués aux oubliettes au prochain post de Trump sur Truth Social ou à la prochaine déclaration d'OpenAI qui signe un nouvel accord de 2 000 milliards avec tous les fabricants de data centers du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de discours narratif. Alors je dis pas que ça m'arrange pas, parce que je passe la plupart de mon temps à raconter des histoires sur la finance, mais là, cette semaine qui vient de s'écouler était tellement pathétique que c'en est risible. Trump qui trouve des deals bricolés avec les Chinois alors que des deux côtés ça se tire dans les pattes par derrière, oublié en 24 heures. Michael Burry qui short l'IA, oublié en 12 heures. La Cour suprême et Trump liquidés en moins d'une séance. Les chiffres de Palantir, une balade de plus 7% à moins 15% en moins de 24 heures. Chaque actualité primordiale ou principale ne dure que quelques heures, et ensuite on passe à autre chose, d'où un marché qui va dans tous les sens et qui n'arrive plus à trouver un argumentaire qui tient la route pendant plus d'une séance de trading complète. Alors est-ce que c'est la fin d'un cycle? Le signe que le bull market est à court de pétrole et d'énergie? Est-ce que c'est à cause de l'IA qui réfléchit plus vite que nous et peut-être trop vite, ce qui ne lui permet pas de prendre du recul? Ou alors est-ce que c'est juste que le marché est devenu complètement débile? Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le week-end du 8 au 9 novembre 2025. Trump est toujours président, Macron a le même taux de popularité que le Covid, les socialistes sont au pouvoir à New York et le S&P 500 nous a fait un reversal de folie vendredi dernier. Après avoir cassé la moyenne mobile des 50 jours et fait un plus bas à 6630, il est remonté de 110 points pour terminer au plus haut de la journée parce que selon les médias financiers hyper pointus que nous avons actuellement, les traders ont décidé évidemment de buy the dip, un rebond de 1,6% en 3 heures sur rien ou peut-être juste un narratif à 2 balles. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Mais bon, malgré ce rebond spectaculaire de fin de semaine, c'est le pire démarrage de novembre, du mois de novembre depuis 2008. Oui, 2008, l'année où même le Père Noël avait vendu son traîneau pour compenser ses pertes sur les produits structurés garantis par Lehman Brothers. À ce rythme, on va finir par demander une prime de risque juste pour regarder les graphiques. Alors pourquoi ça part en vrille en ce début du mois de novembre? Eh bien, tout simplement parce que la tech, c'est devenu un sketch. Les valeurs d'intelligence artificielle, il y a encore Diva de Wall Street sont en train de comprendre le concept de valorisation et qu'au bout d'un moment, quand trop c'est trop, ça commence à se voir. Les Magnificent Seven se sont transformés en Magnificent Seven mais Red, et l'ETF dédié perd 2%, Nvidia se fait scalper de 4,4%, Tesla dévisse de 4%, Meta et Alphabet trinquent joyeusement autour des 3%, Amazon s'en sort un peu moins mal, Microsoft limite la casse. Bref, novembre commence comme un mauvais reboot de 2008, on croise les doigts pour que ça ne se termine pas pareil. Mais heureusement, cette fois, c'est différent. Et c'est différent parce que c'est pas pareil. Durant la semaine qui vient de s'écouler, on s'est souvent préoccupé de la thématique des valorisations. Ça a d'ailleurs commencé avec ce que l'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler le Big Short 2, puisque Michael Burry, un des héros qui avait vu la crise des subprimes arriver, a annoncé qu'il se mettait short sur Nvidia et Palantir. Crime de lèse-majesté. Il a dû se faire une belle semaine, vu que Nvidia a perdu 11% sur la semaine, et ça aurait pu être mieux s'il n'y avait pas eu ce bon vieux buy the dip en fin de semaine. Et puis du côté de Palantir, c'est 14% dans la poche, rien que sur la semaine. Mais connaissant les stratégies de Michael Burry, je ne pense pas que son objectif soit de gagner 10 ou 15%. Burry, c'est un peu comme ce type dans les films d'horreur qui ne parle jamais, mais quand il tourne la tête vers la caméra, tu sais que dans quelques instants, il y a quelqu'un qui va mourir. Et cette semaine, eh bien, il a tourné la tête en direction de l'intelligence artificielle. alors que tout le monde se battait pour acheter des actions Nvidia, comme si c'était le dernier paquet de pâtes et le dernier paquet de PQ avant le Covid, et surtout que tout le monde cherchait le bon narratif pour justifier ses achats. Burry et son fonds, Sion Asset Management, a claqué 1,1 milliard de dollars dans des puts contre Palantir et Nvidia. Oui, vous avez bien entendu, 1,1 milliard pour parier que les deux stars de l'IA vont se faire raser le crâne. Et pas un petit short discret. Non, c'est pas du tout son genre. Hein. C'est un bon gros short de compétition. Genre, je parie une valise de cash que tout va s'effondrer juste au moment où tout le monde pense que ça va monter encore plus. Oui, parce que le héros du Big Short qui se coupe les cheveux au sécateur, pour lui, l'IA, c'est peut-être la plus grosse bulle qu'on ait vue depuis les tulipes au XVIIe siècle. Mais contrairement à l'époque, les tulipes ne coûtaient pas 120 fois les bénéfices. Palantir, super boîte, super storytelling, super contrats gouvernementaux, mais une valorisation qui est carrément complètement débile. On est carrément dans un épisode de Star Wars et pas dans un bilan comptable. Nvidia, incroyable entreprise, génialissime, dominance de marché, croissance stratosphérique. Mais quand tu montes trop vite, tu finis parfois par croiser Icare qui est en train de redescendre et qui dit « Ah bah je t'avais prévenu !» Burry, lui, il a même pas eu besoin de faire une conférence de presse. Un seul tweet, un mouvement de portefeuille et bam ! Wall Street commence à suer comme à la veille de publication des chiffres du CPI. Enfin, comme à l'époque où il publiait encore les chiffres du CPI. Résultat, l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle a vu grosso modo entre 600 et 700 milliards de valorisation de capitalisation boursière disparaître dans un petit nuage de fumée. Et pour le reste des histoires de la semaine, on s'est réjoui des chiffres de l'emploi ADP qui sont sortis 12 000 au-dessus des attentes. En général, on se fout pas mal de ces chiffres, mais on a, en l'absence des NFP, on a quand même trouvé ça super cool. Et puis en même temps, on a parlé du fait que Trump pourrait se faire envoyer ses tarifs douaniers en pleine figure parce que la Cour suprême ne semblait pas super d'accord avec sa stratégie. Pour l'instant, rien n'est annoncé ou confirmé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffira à Trump de changer la raison juridique pour remettre les tarifs en place le lendemain matin, au cas où la Cour suprême, dont il a quand même nommé plusieurs juges, lui tournait le dos. Mais le marché a pris la chose du bon côté en se disant que si les droits de douane venaient à tomber, ça serait tout bénef pour les entreprises et tout bénef pour l'inflation qui pourrait effectivement être enfin sous contrôle après nous avoir coûté tellement cher ces dernières années. Bref, mercredi dernier, c'était une belle journée, une plus belle journée que mardi et nettement meilleure que celle de jeudi. Jeudi, nous avons repris la thématique de l'intelligence artificielle, c'est trop cher. Mais sans Michael Burry, simplement parce que en se levant jeudi matin, quelques experts ont quand même commencé à se lâcher en disant que quand même les valorisations étaient devenues hors sol. Les mêmes analystes qui ont toujours des targets à 250 sur Nvidia et qui pensent sérieusement que Tesla peut aller chercher les 8500 milliards de valo. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous signaler le fait que Musk a obtenu son package à 1000 milliards. Enfin, s'il parvient à monter la valorisation de Tesla à 8500 milliards à coup de robots Optimus, de robots taxi et d'intelligence artificielle, de SpaceX et de Terrafactory, sans compter qu'il va aussi devoir faire un carton avec les bagnoles. Alors, je sais pas comment il va s'y prendre. Peut-être que pour y arriver, il va devoir mettre des V8 dans ses Tesla, vu qu'en ce moment, la voiture électrique, c'est plus très populaire. Avec Ford qui parle de virer le F-150 électrique parce que personne n'en veut. Porsche qui fait machine arrière et qui vomit le concept même d'une voiture à pile. Et Ferrari qui commence à comprendre que personne n'en veut de leurs sèche-cheveux à roulettes, cheval cabré ou pas. Et puis, bien sûr, il faudrait aussi commencer à gagner en F1, ça serait pas mal. N'oublions pas non plus que ni jeudi ni vendredi, nous n'avons eu le moindre chiffre économique aux USA. Shutdown oblige, un shutdown qui bat des records de longévité tous les jours, qui passe avec un gouvernement qui vient de couper les aides alimentaires à 42 millions d'Américains. Un shutdown qui coûte toujours près de 15 milliards par jour. Et un shutdown qui ne devait avoir aucun impact sur l'économie au début, parce que l'économie allait récupérer dès que ce serait fini, mais un shutdown qui commence à inquiéter les analystes et autres économistes parce que ça dure et que ça pourrait durer encore. Pour le moment, l'aéronautique en prend plein la gueule par manque de contrôle aérien qui ne veut pas bosser gratuitement et on parle de 5000 annulations de vols par jour. En résumé, lorsqu'on regarde la photo finish de cette semaine, on n'a jamais réussi à trouver une vraie direction. On a changé d'avis toutes les 3 minutes sur la direction à suivre. Et à chaque nouvelle, que ce soit sur l'IA ou sur l'écho, on a amené une nouvelle réflexion qui voulait dire tout et son contraire par rapport à ce qu'on savait déjà. On a même tenté de casser la moyenne mobile des 50 jours vendredi soir avant de se raviser et de courir dans l'autre sens pour se sauver les fesses. Pour cette fois, on s'en sort, le buy the dip est toujours d'actualité et il fonctionne toujours. Parlons maintenant un petit peu de l'emploi aux États-Unis. Comme je viens de vous le dire, le shutdown est toujours en cours, donc on n'a pas de chiffre de l'emploi type non-farm payroll puisque c'est le BLS qui s'en occupe et que le BLS est en train de se luger sans solde en Floride. On s'est donc contenté de se concentrer sur les chiffres qu'on avait sous la main. Il y a donc eu les chiffres de l'ADP qui étaient meilleurs que les attentes et qui nous disaient tout va bien, l'emploi est fort et Make America Great Again fonctionne. Et puis on nous a sorti deux autres chiffres qui étaient plus inquiétants. Le premier, c'est Revelio Labs qui était une société de data sur l'emploi. Et jeudi, ils ont déclaré que les États-Unis ont perdu 9100 jobs en octobre. Alors, c'est pas simple de penser quoi que ce soit, vu qu'il n'y avait pas vraiment d'attente de la part du marché. Mais une chose est certaine, si les NFP avaient été publiés début octobre, elles n'auraient pas du tout été en négatif. C'est une quasi-certitude. Bref, donc, c'était pas forcément une très bonne nouvelle. Mais c'était pas tout, parce que dans la foulée, il y a eu une autre société qui s'appelle le cabinet Challenger Grand Christmas, qui eux ont annoncé que les licenciements avaient bondi de 183,1% en octobre par rapport à septembre, leur plus haut niveau pour un mois d'octobre depuis plus de 20 ans. Pas besoin d'être un dieu en économie pour comprendre qu'une perte de 9100 jobs sur un mois et 183% de hausse sur les licenciements, ça ne veut pas dire que ça cartonne au niveau économique de l'autre côté de l'Atlantique. C'est donc pas une bonne nouvelle. Mais comme d'habitude, quand c'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire que Powell n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux au mois de décembre. Et comme vous le savez, bien sûr, le marché, il aime, il adore quand on lui parle de baisser les taux. En Suisse, l'inflation a ralenti de 0,1% sur un an. Sur un mois, elle s'est creusée à moins 0,3%. Cette statistique confirme les prévisions de la BNS avec une inflation moyenne attendue à 0,2% en 2025 sur toute l'année. Les loyers sont désormais le principal moteur de l'inflation en Suisse et leur progression devrait se poursuivre en 2026. La Banque d'Angleterre a laissé son taux directeur inchangé à 4% jeudi dernier, à une courte majorité face à la conjoncture économique pourrie au Royaume-Uni et avant la présentation du budget britannique qui devrait comprendre, bien sûr, des hausses d'impôts parce qu'il faut toujours monter les impôts. En Allemagne, la production industrielle en septembre a déçu. Et en Suisse, le taux de chômage a augmenté en octobre de 0,1 point de pourcentage sur un mois à 2,9% dû à la morosité conjoncturelle ambiante. Si on regarde les performances de la semaine, beaucoup plus de rouge que de vert, les Chinois et Hong Kong qui s'en sortent pas mal, le CMI qui survit, l'or qui regrappille un petit peu, le Brésil qui s'envole, mais pour le reste, là, l'argent légèrement en baisse, et puis quand on creuse plus loin, le S&P moins 1,63%, le DAX moins 1,62%, le CAC 40 moins 2,10%, le pétrole qui replonge sous les 60 à 2,70% de baisse, le Nasdaq moins 3%, le SOX qui perd quasiment 4% sur la semaine, et le Nikkei qui nous a fait un retour spectaculaire après ce ralentissement qu'on a subi en fin de semaine. Sur le SMI, Geberit qui a publié ses résultats, on va y revenir, qui prenait 6,24% sur la semaine. Roche qui s'en sort pas trop mal avec 3,67%. Le Nestlé qui monte de près de 3%. Novartis aussi. Swisscom qui a publié des bons chiffres qui prend 2,29%. Et de l'autre côté, ABB qui se prenait quasiment 6% dans les dents. La raison de la baisse, c'est bien sûr l'avalanche de vendeurs sur la tech cette semaine et la crainte de valorisation excessive sur le secteur. Si on regarde maintenant les graphiques, vous voyez que le SMI, c'est presque un cas d'école. On a toujours notre tendance horizontale, enfin montante, qui passe par ici. On tourne autour de la moyenne mobile des 50 jours. Vous verrez que cette moyenne mobile des 50 jours est très importante cette semaine. On tourne autour, on fait pas grand-chose. Pour l'instant, on veut pas lâcher. Il y a un gros support dans la zone des 12 000, 12 100. Si on revient là, faudra acheter. Mais en attendant, le SMI confirme que ça va pas trop mal, mais c'est relativement calme, bien sûr. Le S&P 500 est toujours dans sa tendance haussière, il n'y a pas de doute et on ne se pose pas de questions, mais par contre, alors regardez-moi ça, regardez ce reversal, cette inversion de tendance vendredi soir, c'est la seule chose majeure qu'il faut regarder. Donc comme on le voit, on a eu une semaine toute pourrie sur le S&P 500 qui fait que baisser, on a une accélération baissière vendredi qui met tout le monde en panique, et puis dans les trois dernières heures, comme par hasard et comme d'habitude, j'ai envie de dire, dès que les Européens sont rentrés à la maison, voup, reversal, et on termine au plus haut de la journée. Donc pour l'instant, jusqu'à maintenant, on s'en sort. Le niveau des 6671 qu'on ne devait pas casser, on l'a testé, on l'a cassé, on l'a tenu pour l'instant. Affaire à suivre. C'est intéressant de voir, c'est que la tendance de fond passe bien sûr par le même niveau que la moyenne mobile des 50 jours. Donc tout peut arriver, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, jusque-là, ça va. Le Nasdaq, c'est pareil, avec un renversement de tendance aussi, vous le voyez, pareil, reversal, la même chose, on revient, on a failli aussi casser les supports qu'on avait, cette fois, ça passait par les 24 709, on a tenu, on a rebondi. Et le SOX, reversal aussi, alors là, on n'a même pas été tester les supports, on n'a même pas réussi à aller si bas, mais en tout cas, vous voyez là aussi, ce genre de reversal est assez impressionnant. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que c'était la fin de la semaine, parce que il y avait quand même, on avait quand même un peu exagéré. Donc, le buy the dip faisait du sens clairement durant la semaine. Mais en tous les cas, quand vous regardez la configuration aujourd'hui, ce genre de reversal est assez spectaculaire et impressionnant pour ce qui est du SOX, comme tous les indices américains d'ailleurs. Donc, on verra un peu comment on va entamer la semaine. Mais en tout cas, c'était assez fort et violent. Regardez maintenant le DAX. Vous voyez que le DAX, lui, il n'a pas eu le temps de rebondir. Hein. Donc, le DAX, lui, il a cassé sa moyenne mobile des 50 jours jeudi et vendredi. On a encore accéléré vendredi pendant que les Américains étaient au fond du bac. On a fermé quasiment au fond du trou. Et ensuite, les Ricains ont rebondi derrière. C'est assez rigolo, mais en tout cas, on ferme un sale niveau sur le DAX. On peut aller largement chercher les 23 300, ce qui correspond à ce support-là, tout en bas, ces extrêmes qu'on avait fait pendant la période du mois de septembre, le 17 septembre. On peut aller jusque-là, mais ça dépendra un petit peu de ce début de semaine, puisque si le S&P confirme son rebond et qu'il a fait vendredi, ça pourrait nous sauver également les fesses sur le DAX. Le CAC 40, lui, il a tenu sa moyenne mobile des 50 jours. On termine dessus, hein, on est vraiment en disgrâce, mais de nouveau, avec le rebond américain, si on avait traité jusqu'à 22h sur le marché français, je pense qu'on aurait terminé en direction des 8000 et on aurait sauvé la moyenne mobile des 50 jours. Pour l'instant, le support long terme, il a tenu, donc globalement, c'est plutôt bon pour le CAC. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles lundi matin et que Trump se fâche pas avec la planète entière, on a des bonnes chances de voir un petit rebond sur le CAC qui peut, si les choses s'améliorent la semaine prochaine, rebondir en direction des 8100 pour aller combler ce petit trou là qu'on a laissé derrière nous et puis aller potentiellement rechercher à terme les 8225. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Déjà, on attend de voir si Nicolas Sarkozy va sortir de prison la semaine prochaine. Quel suspense insoutenable. L'or, vous voyez qu'on a descendu, on a perdu cette exagération qu'on avait fait à l'époque sur les 4400. Et puis là, on revient gentiment consolidé autour des 4000. Tout le monde se dit, si j'ai un peu d'or dans le portefeuille, ça va bien se passer. Et au pire, eh bien, ça me donnera quelque chose qui me rassure un tout petit peu. Donc pour l'instant, on surveille attentivement la zone des 4000 pour voir à quel moment on va rebondir. Pour l'instant, ça a l'air de relativement bien se passer sur le métal jaune. Le pétrole, on a cassé le support de nouveau des 61,50. On est de nouveau en dessous, principalement des stocks de pétrole qui explosent aux États-Unis, qui augmentent sans arrêt. On se rapproche de l'hiver, donc c'est un peu normal, mais globalement, on ne s'attendait pas à ça, comme d'habitude. Il faut savoir que les analyses sur le pétrole sont encore plus faux qu'ailleurs. Résultat, le marché est un peu en baisse, et puis on tourne autour des 59,75. Résistance à surveiller, 61,55 sur le brut, sur le WTI, et tout en bas, c'est 55,80. Le Bitcoin, ça se passe de commentaires, hein, ça ne veut plus pour l'instant. Alors, bon, c'est pas une grosse surprise, on est revenu se poser un petit peu sur les bas ici. Mais l'un dans l'autre, on a l'impression que c'est plus ou moins les zones de support. Alors attention, si ça ne tient pas ces niveaux-là, si on va s'établir sous les 100 000 $, là c'est clair qu'on va revenir probablement sur des points bas en direction des 90 000 $. Et c'est assez intéressant parce que quand vous écoutez les gens dans la rue, ils pensent tous que tout est fini sur le Bitcoin. Peut-être qu'on va aller rechercher là en bas et peut-être que ce sera l'occasion de se repositionner dedans et pas forcément à 126 000. Quand ça accélère dans l'autre sens. Du côté des vedettes de la semaine, on commence avec Geberit qui a fait la fête la semaine dernière en bourse. Alors, même que ses marges toussent un peu, mais les ventes tiennent bon et les prévisions de 2025 ont été relevées. Les recettes grimpent de 2% et c'est 4,4% hors effet de change. Les bits et le bénéfice reculent d'un chouïa, rien de dramatique. La direction vise maintenant plus 4,5% de croissance et une marge EBITDA proche des 29%. Les analystes adorent la discipline militaire sur les coûts et l'exécution quasi chirurgicale et Geberit continue de mettre une longueur d'avance à la concurrence portée par l'Europe, les nouveaux produits et zéro exposition aux emmerdes américaines et chinoises. Rebond donc sur le titre suite aux résultats. Vous voyez qu'on a bien tenu le support en bas de range ici ces derniers temps et donc maintenant on repart à l'assaut pour essayer de voir si on arrive à repartir chercher les 653 sur Geberit. Ça va être compliqué parce que les chiffres sont pas aussi extraordinaires que ça, mais en tout cas c'était bien pris par le marché et on a vu 2-3 upgrades à droite à gauche dans la foulée. La Zurich Assurance continue d'avancer à pleine balle et les primes grimpent de 8% sur 9 mois dans le dommage et accident avec un boom de 16% chez les particuliers et 11% sur l'auto grâce aux hausses de prix. Les catastrophes naturelle coûte moins cher que prévu. L'ouragan Melissa ne devrait quasiment rien impacter, faute d'assurés sur place, malheureusement pour eux. Dans la vie, les prix montent aussi, tout comme chez Farmers, même si l'assureur reste très avare sur les détails de la rentabilité. Le premier semestre avait été costaud, avec un bénéfice opérationnel en hausse de 6% et un bénéfice en hausse de 1%. Les objectifs 2025-2027 restent ambitieux, bénéfice par action plus 9% par an et rendement des fonds propres au-dessus des 23%. Les analystes voient ça d'un bon œil, mais rappellent que 35% du business est aux États-Unis, un marché devenu un vrai champ de mine macro et géopolitique pour l'instant. En bourse, ça n'a pas suffi, puisque sur l'annonce, le titre a perdu 0,4%. Dans un SMI qui était globalement faiblard. Ça se passe de commentaires. Quand on voit ce genre de graphique, il y a un mot qui vient à la bouche, c'est chiant, parce que vous voyez qu'on est dans un range latéral autour des 550 balles, grosso modo, qu'on n'arrive pas vraiment à sortir d'un côté comme de l'autre. Je dirais qu'à 580, je serais un peu vendeur pour jouer un peu le range sur la Zurich, parce que pour l'instant, il n'y a rien de très sexy qui justifierait son envol. Le gros avantage, c'est que ça paye du dividende et que ceux qui l'ont sur le long terme, ils n'ont pas trop de questions à se poser. Toujours au sujet des résultats, Swisscom crame une bonne partie de son budget pour digérer Vodafone Italia, mais malgré des ventes et des marges en recul, les chiffres sur 9 mois sortent au-dessus des attentes et la direction confirme tout. Les coûts d'intégration explosent, les synergies arrivent au ralenti et il faudra attendre 2029 pour voir et avoir les 600 millions promis. Le bénéfice plonge de 23%, mais la comparaison est bancale vu que 2024 n'incluait pas encore l'Italie. En Suisse, ça reste plutôt stable. En Italie, ça tousse un peu, mais le dividende grimpe à 26 francs, histoire de calmer tout le monde. Les analystes applaudissent, le cash flow surprend et l'action s'envole de 3,2% pendant que le SMI vivait une semaine plutôt plan-plan. Voilà, Swisscom s'est donc envolé, ça paye du dividende, c'est pas très sexy, mais ça continue de monter, donc on va pas pleurer. C'est vrai que vous voyez, c'est vraiment marrant ce titre-là, parce qu'il y a toujours des périodes où tout le monde la déteste. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé quasiment pendant 6 mois, et là, elle explose, et elle va probablement aller rechercher ses 618, 620, qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps sur la régie suisse, qui est toujours aussi chère, avec des tarifs toujours aussi scandaleux, faut-il le préciser. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Ipsomed a bouclé fin octobre son recentrage total sur le cœur de métier en vendant Ipsotech au fonds allemand Calista. Galderma obtient l'approbation de la FDA américaine pour Restylane Leaf, dont l'amélioration du profil du menton. Cosmo décroche le marquage CE, Communauté européenne, pour Colon Pro, sa plateforme d'IA pour la coloscopie. C'est hyper sexy ce matin. Swissquote propulse Yann De Schepper à la tête de UFA Media et bravo à lui. Avis cartonne sur 9 mois, revenu en forte hausse et prépare un désengagement partiel de plusieurs divisions, dont Swiss Medical Network. Orlicon signe enfin un vrai redressement au troisième trimestre pendant que Georg Fischer resserre ses ambitions à moyen terme. Basilea touche un paiement d'étape grâce au cap franchi par les ventes du Cresemba. Burkhardt Compression, lui, voit ses commandes s'évaporer sur le premier semestre, mais la direction promet déjà les coupes nécessaires au siège de Winterthur. Bell Food Group poursuit sa restructuration et se paye au passage un affineur de jambon allemand. Barry Calbo affiche un chiffre d'affaires en hausse sur l'exercice 2024-2025 malgré des volumes en recul. RNS se fait laminer en bourse après une révision très sévère de ses objectifs de vente et la mise en place d'un nouveau indicateur de rentabilité pour encaisser une année 2026 très coûteuse. Scan taille dans ses objectifs, chiffre d'affaires et bénéfices revus à la baisse pour l'exercice en cours. Adeco sort des chiffres solides salués par le marché malgré un environnement franchement compliqué. BKW se fait downgrader par UBS qui passe de bail à neutral. Et pour finir, Stadler Rail voit un contrat de 2,1 milliards lui filer sous le nez, les CFF ayant offert 116 rames à Siemens Mobility, au grand regret des Turgoviens. Les Suisses vont acheter en Europe. Voilà pour la suite de cette semaine. Eh bien, on a encore pas mal de chiffres côté publication trimestrielle, mais rien de transcendantal. On attend bien sûr Nvidia, ce sera pour la semaine d'après. Et puis, il y aura bien sûr des CPI en Europe et en Allemagne et en France. Et il est possible, j'ai bien possible, que le BLS fasse une exception et publie le CPI américain jeudi, mais ça reste sous réserve. En résumé, on a traversé une semaine totalement schizophrène où chaque micro-news a fait office de vérité absolue pendant 2 heures avant d'être remplacé par la suivante. Le marché ne réfléchit plus, il réagit. Il n'investit plus, il scroll. Et dans ce chaos permanent, on cherche désespérément une direction, une logique, un fil rouge alors qu'il n'y en a plus. Entre shutdown, les valorisations qui partent en orbite, Michael Burry qui sort la sulfateuse, Trump qui bricole des deals avec des bouts de ficelle et une tech qui découvre qu'elle n'est pas invincible et qu'elle est un peu chère, on a eu droit à un condensé parfait du marché 2025, nerveux, hyperactif, amnésique et totalement intoxiqué au narratif. Le buy the dip fonctionne encore, mais franchement, on joue avec des allumettes au-dessus d'un baril d'essence. La suite, un marché qui va continuer à courir dans tous les sens, jusqu'à ce qu'une vraie info, une vraie tendance ou un vrai choc le remette au pas. En attendant, on respire, on garde de recul et on se prépare au prochain épisode du feuilleton. Parce que si on a appris une chose cette semaine, c'est que la bourse adore les bonnes histoires, même quand l'histoire elle-même n'a aucun sens. Excellente fin de week-end à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, liker, partager et commenter. Nous, on se revoit bien sûr mardi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Je répète, j'ai bien dit mardi, parce que demain lundi, je ne suis pas là. Passez une excellente journée, profitez bien. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.